Voilà, bonsoir. Merci de m'accueillir à Monaco. Donc, tout le monde a compris que je viens d'un canton qui s'appelle le Valais et que j'habite à Genève. Et c'est vrai que c'est important de le souligner parce que les injures préférées entre ces cantons, justement, dans le Valais, c'est de dire de Genevois et Genevoise et inversement. Parce que c'est deux cantons, un qui est très urbain et l'autre qui est très montagnard. Donc, c'était intéressant de voir, quand on parlait de la question du contexte, que les injures, justement, il y en a qui sont très transversales et puis d'autres qui sont contextualisées. Ceci étant dit, comme ça a été mentionné, je suis actuellement experte en prévention des violences et des discriminations et ça me permet un petit peu d'ancrer mon propos parce que ce soir, j'ai décidé de vous parler en fait sous deux de mes casquettes. La première casquette, ce sera le fait de me baser sur des recherches scientifiques que je mène maintenant depuis plus de 15 ans sur ces questions. Et puis dans un deuxième temps de la présentation, ce sera plutôt justement en lien avec des expériences que je mène dans les contextes professionnels et scolaires en termes soit de dispositifs de formation ou pédagogique ou d'intervention en tant que telle. Donc ça annonce un petit peu justement les statuts des deux parties principales qui vont organiser cette intervention. Je profite aussi en préambule de remercier l'organisation et l'accueil chaleureux lors de cet événement. Donc merci beaucoup pour ça aussi. Donc vous l'aurez compris que le titre de cette présentation reprend le titre de mon dernier livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'injure ». Et puis j'avais envie dans un premier temps de retracer un petit peu pourquoi tout d'un coup je me suis centrée sur cette question de l'injure. Parce qu'effectivement, comme la thématique plus générale est la question des violences, ce soir on parle de la violence des mots et donc un angle qu'on pourrait choisir, c'est celui des injures. Donc on va aussi discuter, on va dire, de cette articulation, on va dire, ou de cette spécificité, justement, à travers de la violence des mots, de se dire, mais pourquoi l'injure, à mon avis, c'est un très bon angle d'attaque. Alors, avant de rentrer dans les trois raisons principales qui ont fait que je me suis attaquée à ces questions d'injure de manière un petit peu plus approfondie, je voulais demander dans la salle, en levant la main, si la réponse est oui, qui a déjà été la cible d'injures une fois dans sa vie, quel que soit le type d'injure. Si vous pouviez lever la main. Alors je regarde en haut aussi, puisque je découvre du public en haut. D'accord, très bien. Parfait, merci beaucoup. Deuxième question, qui a déjà été témoin d'injures? D'accord. Si jamais, pour les personnes qui sont en haut, il y a beaucoup de monde qui lève la main en bas. Et pour les personnes qui sont en bas, il y a beaucoup de gens qui lèvent la main en haut. Parfait. Et dernière question, qui a déjà été auteur d'injures? Je vous remercie pour votre franchise. Donc, en haut, en bas, on voit que de nombreuses mains se lèvent. Merci beaucoup. Ah oui, une personne très très motivée. Merci beaucoup pour ce mini-exercice, parce que pourquoi choisir l'angle de l'injure pour parler de la violence des mots? La première raison que moi j'ai choisie, c'est celle de l'expérience. C'est-à-dire que, tôt ou tard, tout le monde fait l'expérience de l'injure. C'est ce qui a été dit en introduction. L'injure, en fait, elle est étrangère à personne. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de distinguer, mais à la fois d'articuler dans une dynamique commune, la question justement de est-ce qu'on a plutôt été cible, auteur, témoin, ou les trois? Et cette distinction, pour moi, elle est très importante parce que la façon dont on va penser le contexte et la dynamique des injures va préfigurer les pistes d'action qu'on va donner. Et c'est pour ça que je reviendrai à la fin de ma présentation sur ces trois aspects-là. Donc, première raison, l'expérience. Parce que chaque personne, d'une manière ou d'une autre, fait cette expérience. Et dit autrement, même les enfants savent ce que c'est qu'une injure. Et quand j'interviens auprès des professionnels de la petite enfance, par exemple, sur la question des injures qui fusent dans tous les sens, ces professionnels me disent très souvent « Oui, mais bon, vous savez, les enfants ne savent pas toujours ce qu'ils et elles disent. » Puis je dis « Mais vous avez tout à fait raison, hein, si vous activez un petit peu les principales injures que vous entendez, ben, effectivement, des fois, les enfants répètent, bien évidemment, ce qu'ils et elles entendent et ne savent pas toujours ce que ça veut dire. » Alors moi, je dis toujours à ces personnes que des fois, les adultes non plus ne savent pas le sens précis des injures qui sont répétées. Ça peut aussi arriver. Mais par contre, on constate quand même que les enfants savent que ce n'est pas fait pour faire du bien. Donc on voit qu'il y a déjà une prise de conscience, une intériorisation. Et je m'amuse beaucoup à voir un petit peu quelles injures les enfants vont dire parce que les enfants observent celles qui vont faire le plus d'effet. Donc premier point d'entrée, c'est l'injure en tant qu'expérience. quelle qu'elle soit, c'est-à-dire une expérience qui ne nous est pas étrangère, qui nous est plutôt quasiment quotidienne. Ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, l'injure comme concept. Parce que ce qu'il y a d'intéressant à travers l'idée du concept, c'est que l'injure, à mon avis, elle peut être éclairée uniquement de manière interdisciplinaire. Et c'est une manière justement de se dire, en tant que concept, on a parlé tout à l'heure du fait que ce soit un énoncé performatif, je pense que c'est l'angle le plus intéressant et hautement philosophique de se dire, mais pourquoi les injures, ce n'est pas des mots comme les autres ? Et si on commence à répondre à cette question, ben effectivement, on voit que l'injure, elle a le pouvoir de blesser. N'importe quel mot n'a pas le pouvoir de blesser. Mais on peut aussi rater l'effet d'une injure, comme on disait. Selon le contexte, elle peut tomber complètement à plat si toutes les conditions ne sont pas réunies. Mais donc la question justement du pouvoir de blesser, c'est vraiment quelque chose où on se dit ce ne sont des mots pas comme les autres, puisqu'il y a ce pouvoir-là. Et puis, troisième raison, c'est vraiment une manière de se dire que l'injure devient un vecteur. Alors là, j'y reviendrai en fin de présentation, de se dire mais comment on peut agir sur ces injures et en faire des sujets de réflexion et des pistes d'action, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc c'est un petit peu ces trois raisons que j'ai décidé de déployer ce soir et d'ailleurs aussi dans mon livre, puisque je vois que ces trois aspects fonctionnent de manière très articulée. Et donc pour commencer par la première partie, ce que je vous propose en fait c'est de regarder quelques petits extraits d'entretiens que je mène. Alors je mène des entretiens auprès de personnes de tout âge, mais j'ai décidé pour ce soir de me centrer plutôt sur les enfants et les jeunes. Et à force de faire des entretiens, non pas sur la question des violences, mais moi je m'intéresse plutôt à la base, à la construction identitaire ou au processus de socialisation, je me suis rendu compte qu'en termes méthodologiques, quand je faisais des entretiens semi-directifs avec ces jeunes très souvent me parlaient de la question des violences et à l'intérieur de la question des violences, de celle des injures. Donc c'est comme ça où je me suis dit, ah, il y a quelque chose à creuser. Et de la somme de ces entretiens a émergé une métaphore que je voulais partager avec vous, qui est celle en fait de l'épée de Damoclès. Alors on va maintenant justement à travers deux petits extraits d'entretien se dire justement en quoi l'injure a ce pouvoir-là, comme on vient de le dire. Et c'est aussi une manière de voir qu'en termes du droit, c'est pas pour rien qu'un mot soit encadré. C'est bien parce qu'elle a un pouvoir, cette injure, que juridiquement, il y a un cadre qui existe autour d'elle. Et étymologiquement, c'est intéressant de voir que insulte, ça va être plus proche de assaut, alors que injure, c'est beaucoup plus lié à ignoris, donc on va parler aussi d'atteinte à la dignité, d'atteinte à l'honneur. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit que les injures, elles vont tomber sous le coup de la loi, même quand c'est pour rire. Donc ça, c'est aussi intéressant de se demander au niveau sociologique, anthropologique, comment on vit ces expériences-là, mais sous, on va dire, l'angle du droit, de se dire, ah ben, même quand c'est pour rire, ça va justement être pris en compte. Alors l'épée de Damoclès, je vous ai mis cette image-là, on voit qu'on est dans une cour de récréation, et j'en profite pour vous parler en fait d'un site français qui s'appelle matilda.education. S'il y a des personnes qui sont des professionnels de l'éducation, de la santé ou du social, je vous le recommande vivement, et si ce n'est pas le cas, je vous recommande vivement aussi, en fait. Parce qu'il y a des vidéos très intéressantes et diversifiées, interdisciplinaires, ça va de la philosophie à la biologie, l'anthropologie à l'histoire, et on m'a proposé de faire différentes vidéos, dont une sur les injures. Et je m'étais beaucoup interrogée sur comment faire un outil pédagogique où les gens ne s'endorment pas. Alors j'ai fait beaucoup de modalités, je les ai testées sur moi, je me suis endormie moi-même, donc je me suis dit je vais peut-être éviter de faire ça. Donc sur justement ce site-là, j'ai proposé un outil pédagogique avec des témoignages de personnes, et je vois que sur la question des injures, en fait, partir des expériences concrètes reste le meilleur vecteur. Je parlais tout à l'heure de vecteur, donc si cette vidéo vous intéresse, elle peut être utilisée de manière pédagogique par chapitre, ou si tout simplement vous avez envie de la regarder, n'hésitez pas, mais c'était juste pour dire que ce site matilda.education est très intéressant en termes pédagogiques. Alors pourquoi l'épée de Damoclès ? Alors l'épée d'abord. On a Roxane qui nous dit « C'est une chape de plomb qui laisse des séquelles physiques, psychologiques, c'était le néant. » Donc cet extrait d'entretien, il nous parle en fait des effets de l'injure, et c'est pour ça que cette diapositive s'appelle l'épée. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc pourquoi les injures, ce sont des mots pas comme les autres, c'est parce que ce sont des violences verbales, et elles ont le pouvoir de blesser. Alors là, on n'est pas en train de parler de ce qu'on appelle la désémantisation des injures, c'est-à-dire le fait de mettre des injures dans les phrases comme des signes de ponctuation, très liés à la banalisation de ce langage-là. On parle vraiment justement des injures qui sont adressées de manière directe ou indirecte aux personnes et qui vont les blesser. Donc l'épée, pourquoi l'épée ? La question de blesser en plein cœur. Et puis l'autre pouvoir de l'injure à travers l'épée, c'est la question de la dévalorisation. Et ça, c'est extrêmement important parce que la dévalorisation, ça montre que l'épée, en tant qu'injure justement, elle va créer des frontières à la base qui n'auraient pas lieu d'exister. Mais rien que le fait de dire une injure, on coupe le monde en deux et on crée des frontières. Et cet aspect-là, il est extrêmement important puisqu'on voit que bien des travaux aussi de philosophie d'ailleurs ont montré que l'injure, elle n'est jamais uniquement individuelle. L'injure, elle est toujours individuelle et collective. Si je sors d'ici et puis je profère une injure raciste, par exemple, ben je vais viser la personne en tant que telle, mais je vais aussi viser tout un groupe d'appartenance. Ou par contre, si je dis justement des injures qui touchent une collectivité, ou en termes généraux, je vais aussi toucher chaque membre de cette collectivité. Donc on est en train de voir que finalement, l'injure n'est jamais en fait un électron libre ou isolé, mais fait souvent partie d'une série répétée d'actes de langage, qui fait que justement, il y a cette puissance de l'épée qui va frapper en plein cœur. Et ce que nous dit Roxane aussi, c'est que ces effets des mots, elle a été victime uniquement justement d'injures répétées, elle n'a jamais vécu de violence physique, et Roxane des fois disait « j'aurais vraiment préféré qu'on me frappe, parce qu'en fait, moi-même, j'aurais pu identifier que cette violence-là, elle est grave, et en plus, il y aurait des marques. » Parce que les marques dont elle parle, elles sont beaucoup plus, on va dire, invisibles que les coups en tant que tels, si on prend ces exemples-là. Donc, les conséquences de cette épée, hein, des aspects liés à la santé physique ou psychologique, mais aussi l'autre point très important, c'est celle du néant. Et celle du néant, je la travaille énormément actuellement sur les questions de harcèlement scolaire. Je parlerai plutôt personnellement d'intimidation scolaire, parce que le mot de harcèlement, surtout avec l'actualité entre le harcèlement sexuel, le harcèlement de rue et le harcèlement sexuel, on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes dynamiques qui sont mises en place. Donc je pense que pour éviter des confusions, je pense que le mot d'intimidation, il est plus intéressant, surtout que dans le contexte scolaire, l'injure, ce sera l'arme première de l'intimidation, à savoir justement un phénomène de groupe qui va assaillir une personne et créer une asymétrie. Et donc la question du néant pose aussi justement cette interrogation sur comment agir en profondeur sur ces aspects-là, et j'y reviendrai en conclusion. Donc pourquoi l'épée de Damoclès ? Parce que l'épée, justement, les mots sont une arme, et de Damoclès, parce que Guillaume nous dit « On ne m'a jamais injurié en face, mais le fait que ça puisse arriver m'angoisse, alors je fais gaffe ». À force d'entendre des jeunes qui me parlaient de leur expérience et qui m'ont dit la souffrance que ça pouvait être d'être la cible d'injures, j'ai eu tout d'un coup plein de jeunes qui me disaient, ou même d'enfants, « Moi, en fait, on ne m'a jamais injurié en face, moi, en tant que personne. Par contre, je ne cesse d'entendre des injures autour de moi qui me visent indirectement. Alors, elles ne sont pas dites à moi, mais ça me touche. » Et c'est là où justement j'ai développé cette idée de Damoclès, parce que du coup ces personnes vivent comme avec des épées qui peuvent tomber à tout moment. Et la question typiquement de l'intimidation sur les réseaux sociaux, c'est un bon exemple parce que du coup cette épée elle devient quasiment anonyme et impalpable, voire invisible. Donc l'épée de Damoclès c'est aussi une manière de se dire que les injures peuvent tomber de cette manière-là. Alors moi je disais à ces personnes, mais... Je leur disais pas comme ça, mais en gros, je leur disais « Mais vous n'êtes pas un peu parano, en fait, de penser qu'il y aurait tout le temps des épées qui vous tomberaient sur la figure tout le temps. » Et puis, du coup, c'était beaucoup des élèves, là, on parlait du contexte scolaire, et ces élèves disaient « Bah non, bah, je sais pas que je paranoïe, en fait, c'est que c'est violent d'être la cible de violence, c'est encore plus violent quand les adultes n'interviennent pas. » Donc, c'est des élèves qui avaient intériorisé que, justement, il n'y avait pas de bouclier qui allait contrer les épées de Damoclès. Donc, ces personnes se disaient, ben, si, justement, les personnes ne bougent pas pour les autres, pourquoi on bougerait pour moi ? Donc, je reviendrai aussi à la fin, bien sûr, à chaque fois, pour proposer une piste sur chaque constat. Les deux points que je voulais mettre en évidence à travers l'épée de Damoclès, c'est qu'on voit qu'il y a ce pouvoir de faire changer de comportement. Guillaume nous dit « je fais gaffe ». Et c'est intéressant puisque dans le contexte scolaire, ça veut dire que des personnes vont éviter d'aller aux toilettes au même moment que certaines personnes. Il y a des élèves qui vont aller dans la bibliothèque pendant la récré, comme ça il y a un ou une adulte, et les personnes se sentent en sécurité. Donc on voit que l'injure, là, sans même être adressée, elle a le pouvoir justement de faire changer de comportement, puisque Guillaume va dire « je fais gaffe ». Sur les questions de harcèlement de rue, c'est quelque chose aussi qui marche très fort, de comment les femmes, elles vont se diriger en fait dans l'espace public, par exemple, et encore plus de nuit. Et le deuxième constat, c'est le fait que l'épée peut créer un sentiment d'angoisse et un sentiment justement d'hostilité, sans même être directement prononcé. Du coup, en parlant de tous ces aspects-là, le point suivant, c'est de se dire que finalement, l'injure, c'est que la pointe de l'iceberg, au bout du compte. Parce que si on en parle, c'est parce qu'elle est extrêmement banalisée, mais elle n'est pas banale. Et ça fait que c'est un peu la pointe qui sort de l'iceberg, puisque c'est des choses qu'on entend beaucoup. Et hors de l'iceberg, on peut aussi avoir des violences physiques, des violences sexuelles, c'est des choses plus palpables, audibles. Par contre, on a toute cette masse cachée sous l'eau, qui, à mon avis, est vraiment très importante, parce que c'est nécessaire, bien sûr, de se questionner sur comment on va faire par rapport à ces injures-là. Mais tant qu'on ne s'attaque pas au système hiérarchique qui fonde ces injures-là, on ne va jamais s'en sortir, puisque du coup, ce sera mettre des pansements sur des plaies béantes, tant qu'on ne s'attaque pas aussi au système de hiérarchisation, qui sont d'ailleurs les discriminations. Donc, ça nous montre que, justement, on pourrait vraiment agir sur l'injure en tant que telle, mais aussi sur d'autres formes qui la concernent, notamment les stéréotypes, l'exclusion, les discriminations. On voit que c'est plein d'exemples qui s'articulent à cette notion-là. Alors on arrive du coup, en fonction de ces aspects-là, à des choses qui sont beaucoup plus liées à comment j'ai pu traduire mes propres recherches sur ces questions et des expériences en contexte scolaire ou professionnel. Donc on pourrait vraiment se dire, mais comment agir en amont par rapport à ces questions et comment réagir à chaud quand ça arrive? Donc la première chose qu'on peut mettre en évidence, c'est que la question d'intervenir reste malgré tout en fait incontournable, parce qu'on peut se dire que montrer son désaccord par rapport à une situation d'injure ou de violence, c'est déjà en fait donner des messages. Et si je reprends l'exemple du contexte scolaire dans certaines formations justement que je partage avec les adultes, on voit que souvent les adultes disent à juste titre « oui mais c'est tout le temps, ça fuse dans tous les sens, des fois j'ai pas le temps ». Je dis effectivement, je comprends très bien, parce que la cloche sonne, le cours se termine, etc. Mais en fait ça prend une seconde de montrer son désaccord. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas à ce moment-là où c'est hyper chaud qu'on va dérouler le code pénal. Ça, justement, ça se fait en amont ou en aval. Mais là, quand c'est chaud, vraiment, le fait de pouvoir montrer son désaccord, ça peut être par la reformulation, l'interpellation, quelque chose justement de beaucoup plus dynamique. Mais entre-temps, montrer son désaccord, on donne trois messages. On donne un message aux auteurs. C'est pas admissible ce que tu fais ou ce que vous faites. On donne un message aux cibles. Ce que tu vis, c'est pas normal, regarde, t'es soutenu et entendu, et surtout on donne un message aux témoins. On parlait de l'intimidation scolaire, mieux elle marche, mieux elle va faire des séquelles, mais surtout elle demande du public, parce que le but c'est justement de faire quelque chose devant le public. Donc ne jamais oublier qu'on a finalement un pouvoir d'action très fort qui peut nous prendre pas beaucoup de temps. Et puis c'est encore plus intéressant si on continue dans le cas du contexte scolaire, si on a la capacité de dire non, comme vous le savez très bien. C'est-à-dire que ça nous prend une deuxième seconde de dire, tu sais très bien, en fait, on a discuté en début d'année sur les règles de vivre ensemble, où plus on peut faire référence à des moments partagés à froid, dans le calme, plus justement les élèves vont voir que ce n'est pas de la sanction pure et dure qui n'aurait aucun sens, mais ça fait appel à des moments partagés ensemble et en amont. Et le dernier point qui termine cette triade, c'est celle de la promotion. C'est de penser finalement la question des injures et des violences, pas uniquement dans comment on fait pour réagir à chaud quand ça arrive, mais comment on peut avoir des discours positifs et inclusifs dans le quotidien, et pas seulement quand les incidents surviennent. Donc articuler la prévention et la promotion, c'est vraiment un aspect extrêmement fort et puissant, parce que c'est les deux faces d'une même pièce. Et l'aspect aussi justement d'intervenir, c'est une manière de montrer aussi que ça agit sur les deux sentiments qui sont les plus répandus pour les cibles de violence. Le premier sentiment, c'est l'impuissance. On voyait Roxane, elle disait c'est le néant, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas comment faire pour s'en sortir. Donc rien qu'en montrant justement son désaccord, c'est aussi une manière justement de faire sortir de l'impuissance. Et l'autre sentiment le plus vécu, c'est celui de l'injustice. Donc c'est aussi une manière de dire je vais prendre en charge cette situation. Et dans la promotion, c'est aussi une manière de dire donc stop, c'est pas admissible. Comme vous le savez bien, et la dernière phase, la troisième seconde, c'est « on en reparlera ». Et juste dire « on en reparlera », c'est une manière d'être capable de se dire Des fois, on rentre chez soi, puis on se dit, ah, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça comme ça, ou faire comme ça. Donc, ça donne la possibilité de revenir sur ces aspects-là. Donc, la dernière diapositive, c'est aussi une triade. J'adore les triades. Si je termine en termes de synthèse assez concrète pour répondre aux questions que je posais tout au début, je me rends compte que ce soit dans le contexte scolaire ou professionnel, on voit que si on articule trois dimensions, on peut avoir vraiment une prévention très constructive et beaucoup plus efficace, parce qu'il y a toujours un plan individuel qui va rentrer en ligne de compte. Parce que finalement, chaque personne a une capacité d'action, comme je viens de le mettre là, en termes de posture citoyenne. Alors justement, on ne va pas non plus justement se jeter dans la gueule du loup dans certains contextes, mais dernièrement, j'étais dans un métro à Lausanne, et puis je voyais qu'il y avait une jeune fille qui était apparemment en train de passer un sale quart d'heure avec deux garçons qui l'assaillaient. Et puis comme moi-même, je ne voulais pas surinterpréter cette situation et puis débarquer et faire la chevalière blanche ou je ne sais quoi, moi, je ne voulais pas penser à sa place. Du coup, plutôt que d'aller justement... stopper cette situation de manière très frontale, je suis allée justement simplement demander l'heure à cette personne. Et du coup, ça lui a donné l'occasion soit de casser cette situation où elle était mal à l'aise parce qu'elle est mal à l'aise, soit répondre, et on voit justement que ces possibilités-là nous montrent qu'on peut faire diversion. Et moi, j'utilise beaucoup plus cette méthode, j'ai envie de dire, dans mon quotidien, parce que j'avais un conflit vraiment éthique de me dire, est-ce que moi, je bouge ou je ne bouge pas ? Et il y a toute la question de la responsabilité individuelle ou collective. Donc, on a une posture citoyenne, chaque personne, on va dire, la déploie à sa façon. Mais quand on parle de contexte scolaire ou professionnel, on a autre chose qui rentre en ligne de compte, qui est la posture professionnelle. Et donc là, c'est tout autre chose, puisqu'en fait, il y a en fait... une fonction d'être garant et garante de cet aspect-là. Donc, je travaille beaucoup la posture professionnelle avec les adultes, parce qu'il y a des adultes, par exemple, qui, sur ces questions, au niveau théorique ou des contenus, sont incroyables, mais dans leur pratique quotidienne, reproduisent des stéréotypes ou des inégalités. Donc, on voit que si on peut travailler sur le fond et la forme, eh ben, on va avoir beaucoup plus de cohérence. Mais ça va bien sûr être beaucoup plus efficace si on articule cet aspect individuel à un plan plus collectif. C'est-à-dire que, par exemple, si je ne suis pas la seule personne à être dans cette dynamique-là, déjà, ben justement, on s'épuise et puis ça n'a pas beaucoup de sens parce que les élèves voient bien que Janine dit blanc et puis Jules dit vert et puis donc leur cuisine peut continuer très clairement. Donc, travailler un plan plus collectif, ça permet de travailler aussi de la cohérence pédagogique en tant que telle. Et puis, ben là, ça demande justement souvent avoir un groupe de référence, quelle que soit la structure, ça peut être le contexte professionnel ou scolaire, de se dire, il faut que, justement, toute personne sache à qui s'adresser au sein même de sa structure. Et ce qui se montre très pertinent aussi, c'est articuler le réseau interne et externe. C'est-à-dire aussi, par exemple, faire des interventions de personnes externes dans une entreprise, dans une école, etc. Et le dernier point, qui est celui justement de la dimension institutionnelle et politique, ben, c'est revenir aussi au cadre légaux et organisationnels ou à la question des chartes. Et donc ça, c'est un vrai enjeu parce qu'on voit les chartes qui prolifèrent partout. Donc l'enjeu, c'est vraiment de se dire comment faire pour qu'elles ne restent pas des coquilles vides, mais soient vraiment incarnées. Et donc ces trois dimensions... On voit que justement, quand on parle d'ailleurs de souffrance au travail de manière plus générale, on voit que c'est souvent quand justement il n'y a pas d'articulation entre ces dimensions qui crée des tensions pour les personnes. Donc ça, on pourra bien sûr en discuter très volontiers. Comme il me reste 3,5 secondes, c'est parfait. C'est ça. Donc la dernière diapositive, je boucle la boucle avec, comme je disais, pourquoi le pouvoir de l'injure. Et au moment où je rédigeais la fin de ce livre, coïncidait en fait avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et c'était très intéressant en fait de voir, si on revient à la question aussi de la banalisation des injures, de voir que ça devient aussi compliqué quand on a des autorités politiques qui vont légitimer ce genre de discours. Donc après, il ne faut pas s'étonner si on revient au cours de récréation que des enfants ressortent des choses qui sont entendues de manière assez virale. Donc ça nous permet là de refaire la boucle entre notre quotidien, nos expériences et puis ces différents niveaux. Je vous remercie vivement pour votre attention et puis tout de suite.